Heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Le président invite le public à accueillir la nouvelle année avec joie et optimisme. Indonésie fournit 2 sur 7 millions de doses de vaccins contre la polio en Birmanie. Le ministre indonésien des Transports a souligné l'anticipation d'une augmentation du nombre de passagers sur la traversée Java-Bali. Ministre indonésienne de la Communication et de la Technologie, Mutia Hafid, encourage la synergie nationale pour la transformation numérique. Ministre indonésien de l'Agriculture agit rapidement pour lutter contre la fièvre aphteuse avec une vaccination de masse simultanée. Secrétaire général de l'ONU, faire de 2025 un nouveau départ dans son message du nouvel an. Et OMS exhorte à nouveau la Chine à ouvrir les données sur les origines du COVID-19. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président Prabowo Subianto a félicité tout le peuple indonésien face à la nouvelle année 2025. Cela a été transmis par le chef de l'État après avoir assisté à la réunion de clôture du budget des recettes et des dépenses de l'État APBN 2024 au bureau du ministère des Finances à Jakarta mardi 31 décembre 2024. À cette occasion, le président a invité le public à accueillir la nouvelle année 2025 avec des sentiments de joie et d'optimisme et à croire que l'Indonésie se relèvera. Le président Prabowo Subianto a déclaré à tous mes compatriotes et frères, bonne année. Nous abordons la nouvelle année avec joie, optimisme et confiance dans la capacité de l'Indonésie à se relever. Le président a souligné que le soir du nouvel an, le gouvernement continuerait à travailler jusqu'à minuit. La plupart des représentants du gouvernement étaient dans leurs bureaux respectifs jusqu'à 00h00. Heure locale. Le président a également souligné l'engagement du gouvernement à toujours être aux côtés du peuple en créant un système fiscal équitable. Le gouvernement indonésien a envoyé 2,7 millions de doses de vaccins contre la polio BOPV à la population de la Birmanie. Cette aide humanitaire est arrivée à Yangon le 20 décembre. La remise de l'aide a été effectuée par le directeur de l'Asie du Sud-Est du ministère indonésien des Affaires étrangères, Mirza Nur Hidayat, au directeur général adjoint du département de la santé publique du ministère de la Santé de la Birmanie. À cette occasion, Mirza Nur Hidayat a transmis une offre visant à accroître la coopération grâce au renforcement des capacités en Birmanie. Dans le secteur de la santé. Il a déclaré qu'à l'avenir, on espère que la coopération entre les deux pays dans le secteur de la santé pourra également se développer. Mirza, dans sa déclaration citée par Radio République Indonésie, a déclaré mardi 31 décembre que le but de la collaboration était d'encourager l'entrée potentielle des produits à service de santé appartenant à l'État indonésien sur le marché de la Birmanie. Il a souligné que l'octroi d'une subvention pour les vaccins souligne l'engagement de l'Indonésie à fournir une aide humanitaire sous la forme de subventions pour les vaccins à la population de la Birmanie. Cette activité est également une forme concrète du rôle diplomatique actif de l'Indonésie, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération régionale. Le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Dudi Purwaganti, a souligné l'importance d'anticiper une augmentation du nombre de passagers traversant Java-Bali pendant les vacances de fin d'année 2024, avec d'assurer des déplacements fluides. Le ministre des Transports, Dudi Purwaganti, tout en surveillant directement le port de Ketapang, Banyuwangi, Java Oriental, a déclaré mardi 31 décembre que son parti avait chargé ASDPSA, Indonesia Ferry et d'autres parties prenantes concernées de prendre des mesures stratégiques pour assurer la fluidité, le confort et la sécurité du ferry. Les utilisateurs des services, le ministre des Transports a souligné l'importance des aspects de sécurité, de préparation des infrastructures pour anticiper une augmentation du nombre de passagers traversant Java-Bali pendant des vacances de Noël et du Nouvel An. Dudi a ajouté que son parti avait ordonné au rang du ministère des Transports d'augmenter le nombre d'agents de surveillance sur le terrain pour assurer la sécurité des passagers pendant la période des vacances de fin d'année. La ministre indonésienne de la communication et du numérique, Menkom Digi Mutia Hafid, a souligné l'engagement du ministère à soutenir la vision d'une Indonésie dorée 2045 à travers une transformation numérique basée sur la synergie et la collaboration. Au cours des 2 mois de son mandat et la mise en œuvre des étapes stratégiques axées sur 3 piliers principaux, une connectivité significative, un écosystème numérique responsabilisant et un espace numérique sûr et souverain. Comme fondement de la transformation numérique, la ministre Mutia Hafid accélère le développement des infrastructures numériques dans les zones 3T frontalières, défavorisées et ultra-périphériques. Une étape concrète est la construction de plus de 120 tours de stations d'émission de base en Papouasie avec pour objectif d'atteindre 1000 villages isolés en 2025. En octobre 2024, la ministre Mutia s'est rendue dans le village de Noni à Nusa Tenggara Orientale pour garantir un accès numérique inclusif. Kemkom Digi agit également rapidement pour gérer la connectivité dans les zones touchées par des catastrophes comme le mont Lewo Tobi qui est entré en éruption en novembre 2024. Les opérateurs de téléphonie mobile sont invités à fournir quota Internet gratuit aux résidents touchés afin de répondre aux besoins d'éducation et de communication. La Direction générale de l'élevage et de la santé animale du ministère de l'Agriculture de la République d'Indonésie collabore avec les bureaux d'élevage de province, des districts, des villes et des associations pour agir rapidement pour lutter contre la fièvre aphteuse FMD en procédant à des vaccinations de masse simultanées. Le chef du centre vétérinaire Forma BBVF Pus Vetma Surabaya Edi Budi Susila a expliqué dans sa déclaration de mardi 31 décembre que son parti avait distribué le vaccin PMK et effectué des vaccinations dans diverses provinces d'Indonésie. Cette distribution vise à prévenir la propagation du virus de la fièvre aphteuse et à maintenir la santé du bétail. Le ministère de l'Agriculture, par l'intermédiaire de la Direction générale du PKH, collabore avec les services provinciaux de l'élevage, les agences en charge de fonctions d'élevage dans les districts, les villes, ainsi que l'Association indonésienne des éleveurs et des engraisseurs à PPSI qui ont distribué le vaccin les 28 et 29 décembre 2024. Et dit a ajouté que la distribution du vaccin PMK a atteint 2000 flacons aux 50 000 doses distribuées dans diverses régions dont Java Oriental, Java Central, Java Occidental, Banten, région spéciale de Yogyakarta, région spéciale de Jakarta et Lampung. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi 30 décembre à faire de 2025 un nouveau départ. Dans son message pour la nouvelle année, tout au long de l'année 2024, l'espoir est difficile à trouver. La guerre provoque d'énormes souffrances, misères et déplacements. Les inégalités et les divisions sont endémiques, alimentant les tensions et la méfiance. Guterres a déclaré que le monde venait à traverser une décennie de chaleur mortelle et que les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées avant eu lieu au cours des 10 dernières années, y compris 2024. Le chef de l'ONU a exhorté les pays à mettre le monde sur une voie plus sûre en réduisant considérablement les émissions et soutenir la transition vers un avenir renouvelable. Antonio Guterres nous a conseillé de nous rassembler pour faire de 2025 un nouveau départ. Pas comme un monde divisé, mais comme des Nations Unies. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a de nouveau exhorté la Chine à partager ses données sur les origines du COVID-19, soulignant le besoin urgent de transparence et de coopération pour prévenir de futures pandémies. L'OMS a lancé cet appel dans un communiqué publié exactement 5 ans après que les autorités sanitaires de Wuhan ont signalé pour la première fois des cas de pneumonie mystérieuse. Le COVID-19 a tué plus de 7 millions de personnes, paralysé les systèmes de santé et de dévaster l'économie mondiale. Rapporté par Reuters dans la déclaration, l'OMS a souligné que sans transparence, partage de données et coopération entre les pays, le monde ne peut pas se préparer à la prochaine épidémie. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le monde avait beaucoup appris de cette pandémie, mais qu'il était toujours confronté aux mêmes faiblesses et vulnérabilités qu'il y a 5 ans. Bonjour, Jétard, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui avec Maudry, intitulé 2025, l'espoir, l'esprit et l'optimisme de l'Indonésie. Sagittaire, le président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a invité tous les Indonésiens à accueillir 2025 avec un optimisme joyeux, confiant que l'Indonésie se relèvera. Le président Prabowo a transmis cette invitation dans un communiqué de presse mardi 31 décembre 2024 à Jakarta. Auparavant, dans ses vœux de Noël et du Nouvel An diffusés sur le compte YouTube du secrétariat présidentiel, le président Prabowo espérait que 2025 apporterait la paix, la bonté et les bénédictions à tout le peuple indonésien. L'optimisme et la confiance en soi sont certainement les clés pour que l'Indonésie puisse atteindre la vision d'une Indonésie dorée à l'horizon 2045. Cette vision se concentre sur quatre piliers principaux, à savoir le développement des ressources humaines, la croissance économique durable, un gouvernement fort et un développement équitable, avec l'espoir de faire de l'Indonésie une puissance mondiale active dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiale. Le président Prabowo Subianto et le cabinet avancé Indonésia ont défini une mission visant à réaliser une Indonésie dorée à Astacita. Ces 8 objectifs. L'un d'eux consiste à renforcer le système de défense et de sécurité du pays et à encourager l'indépendance nationale grâce à l'autosuffisance en matière alimentaire, énergétique, hydrique, d'économie créative, d'économie verte et d'économie bleue. À plusieurs reprises, le président Prabowo Subianto a souligné que l'optimisme et la confiance en soi doivent être fermement ancrés dans l'esprit de la nation indonésienne. Par exemple, en donnant les orientations du plan de développement national RPJMN 2025-2029, le président Prabowo Subianto a déclaré que le gouvernement qu'il dirige n'hésitera pas. Le gouvernement adhère à la Constitution de 1945 et aux idéaux des pères fondateurs de la nation indonésienne. Cet optimisme et cette confiance en soi répondront également aux doutes de nombreuses parties quant à la naissance de l'Indonésie pour réaliser la vision d'une Indonésie dorée. Le gouvernement indonésien vise une croissance économique indonésienne de 8% en 2028-2029. Pour 2025, le gouvernement indonésien s'est fixé comme objectif de projeter une croissance économique indonésienne de 5,2%. Avec tous les atouts dont dispose l'Indonésie tels que les ressources naturelles et les ressources humaines et l'amélioration des faiblesses dans divers secteurs, l'Indonésie est optimiste et confiante pour saisir toutes les opportunités et relever tous les défis pour réaliser une Indonésie dorée en 2045. C'est le devoir de tout le peuple indonésien pour que cela se réalise. Bonsoir, je vais tard, c'est tout. Le commentaire.
Bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er janvier 1984, le Brunei Darussalam obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Le Brunei Darussalam est sous protection britannique depuis 1888, bien qu'il s'agisse d'une monarchie absolue avec le sultan comme chef d'État et de gouvernement. Les relations extérieures et la défense sont gérées par les Britanniques. Le Brunei Darussalam a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 1er janvier 1984. Depuis son indépendance, Brunei est devenu un pays très riche grâce à ses gisements de pétrole et de gaz naturel. déclaration, mettons à l'événement du 1er janvier 1995, l'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été fondée. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été fondée le 1er janvier 1995 pour libéraliser le commerce international, réduire les tarifs douaniers et surmonter les barrières commerciales. L'OMC remplace l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce GATT en vigueur depuis 1987 et a pour objectif d'améliorer l'économie mondiale grâce à des règles commerciales fondamentales et à des mécanismes juridiquement contraignants de règlement des différends. Basé à Genève en Suisse, l'OMC compte 164 pays membres en 2016. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 1er janvier 2002, explosion d'une bombe après le réveillon du Nouvel An 2002 en Indonésie. Les bombes du Nouvel An 2002 étaient une série d'explosions de bombes survenues le 1er janvier 2002 à Jakarta et Palu. À Jakarta, une grenade a explosé devant un restaurant de Jakarta du Sud à 15h30 heure locale, blessant gravement de personnes et endommageant de voitures à proximité de l'endroit. Pendant ce temps, à Palu, dans Sulawesi central, il y a eu 4 explosions de bombes dans 4 églises, dont une à 9h30 heure de l'Indonésie centrale, WITA. L'explosion a provoqué des dégâts au bâtiment et plusieurs blessés. Un policier est mort lorsqu'il tentait de désamorcer la bombe. Cet incident a été décrit par deux terroristes malais, Azhari et Nourdin Mtop, qui avaient déjà été impliqués dans une série d'attentats à la bombe la veille de Noël 2000 et dans l'attentat à la bombe de la bourse de Jakarta. C'est le talk, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Sebelum cinta. bukanlah logikaku untuk menolak. Tapi ku tak bisa bohongi hati kecilku. Bila saja diriku ini masih sendiri.
Chers auditeurs, c'est la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et encore le titre. De nombreux pays craignent de ne pas obtenir le développement indonésien, a affirmé le président Prabowo. Le président de la République indonésie, Prabowo Subianto, a déclaré que de nombreux pays s'inquiètent de ne pas s'approvisionner en matières premières et produits dérivés de l'huile de palme indonésienne. Lors d'un briefing, lors de la conférence de planification nationale de développement Musrembangnas du Plan National du Développement à moyen terme, RPZMNN, 2025-2029 au ministère de la Planification du Développement National, BAPNAS, Jakarta, lundi 30 décembre, le président a révélé que lors de sa visite à l'étranger, de nombreux pays avaient des espoirs pour l'Indonésie. Le président Prabowo a déclaré que de nombreux pays ont réellement besoin de l'huile de palme indonésienne. On dit que l'huile de palme est un matériau stratégique. C'est pourquoi de nombreux pays craignent de ne pas obtenir de l'huile de palme d'Indonésie. Devant les gouverneurs, régions et maires présents, le président a demandé aux chefs régionaux ainsi qu'aux responsables de l'application des lois de protéger les plantations de palmiers à huile nationale. Selon le président, l'huile de palme est devenue un bien de l'État. Le chef de l'État indonésien a également démenti que l'huile de palme ait provoqué la déforestation. Le président Prabowo a également évoqué les accusations de déforestation due aux plantations de palmiers à huile émanant de l'Union européenne qui sont destinées à l'Indonésie. L'Union européenne a également publié une politique rejetant les produits indonésiens à base d'huile de palme parce qu'ils sont considérés comme provoquant la déforestation. Le président indonésien a souligné que les industries du chocolat et des cosmétiques de plusieurs pays ont besoin de produits dérivés de l'huile, comme le mélange, afin que les agriculteurs n'aient pas à craindre cette menace. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Malingkan pandang hanya padamu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la tradition locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la grotte Sunyaragi est une grotte artificielle située dans le sous-district Sunyaragi, Kesambi, ville Cirebon. Ce bâtiment ressemblant à un temple est souvent appelé Taman Sari Gua Sunyaragi. Le nom Sunyaragi vient des mots Sunya qui signifie calme et Ragi qui signifie corps du sanskrit. L'objectif principal de la création de la grotte était de servir de lieu de repos et de méditation pour le sultan de Cirebon et sa famille. La grotte Sunyaragi est un patrimoine culturel situé dans la ville de Cirebon, dans la province Java Occidental, avec une superficie d'environ 15 hectares. En général, Taman Sari Sunyaragi est un jardin où les fonctionnaires du palais et les soldats du palais médite pour améliorer la connaissance du Kanuragan. La construction et la composition des bâtiments de ce site constituent un parc aquatique. Pour cette raison, la grotte Sunyaragi est souvent appelée le parc aquatique de la grotte Sunyaragi. Dans le temps ancien, le complexe de grotte était entouré en lac, à savoir le lac Jati. En dehors de cela, dans la grotte, il y a de nombreuses cascades artificielles à décorer et des décorations de jardin telles que des éléphants, une statue de la femme vierge Sunti et une statue de Garuda. La grotte Sunyaragi fait partie du palais Pakumwati, aujourd'hui appelé palais Kasepuhan. Selon la version Carubanagari de l'histoire de la ville de Cirebon, la grotte de Sunyaragi a été fondée en 1703 après Jésus-Christ par le prince Kakarangen, le petit-fils de Sunan Gunung Jati. Le complexe Sunyaragi a subi plusieurs rénovations et réparations. Ce bâtiment historique a une structure de bâtiment unique et est décoré de roches et de corail à chaque endroit. Ce point de rassemblement de corps rassemble à un nuage appelé Wadasan. Wadas protège l'ensemble immobilier des changements de température, ralentissant ainsi la propagation de la température à l'intérieur du bâtiment. Ce rocher en forme de Wadasan soutient la fonction du complexe en tant que lieu d'isolement qui offre une atmosphère mystique et paisible aux fils et filles du palais qui se concentrent sur la méditation. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. Affaires et l'État, c'est la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Dari Akar Jangan. Dari Akar Jangan, en français, des racines de fougère. Bon écoute. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Dari Akar Jangan. Dari Akar Jangan, des racines de fougères. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et un commerçant de souvenirs à Tanjung Puting, dans le centre du Kalimantan. Chris a interrogé le vendeur de souvenirs sur les matériaux de base pour les bracelets souvenirs. Bon, écoute.
Saya suka gelang ini. Bahannya dari apa?
Ini gelang simpai. Bahannya dari akar janggang. Janggang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé Dari akar jangan, dari akar jangan, des racines de fougères. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Bahannya dari akar jangan, bahannya dari akar jangan. Matériel de base est de la racine de fougères. Bahannya, bahannya, matière de base. Dari. Dari de akar jangan racine de fougère. Suka, suka aimé. Gelang simpai bracelet créole. Tanaman, tanaman plante. Pakis, pakis fougère. Beli, beli acheter. Lima, lima cinq. Chers auditeurs, dans une conversation, vous avez entendu l'expression bahannya dari akar jangan. Bahannya dari akar jangan. Les matériaux de base sont fabriqués à partir des racines de jangan. Dans l'énoncé, il y a le mot dari. Dari, de, utilisé pour marquer des mots ou des expressions sur les ingrédients ou la matière de base de quelque chose. Dans le cadre de la conversation, le commerçant a fait savoir à Chris que le matériau du bracelet Simpai vient de la racine Jangan. Sur allez, mettons écouter un autre exemple d'utilisation de la préposition Dari, Dari de, qui fonctionne pour marquer des mots ou des expressions sur les ingrédients ou les matières de base de quelque chose dans une autre phrase. Perhiasan ini dari emas. Perhiasan ini dari emas. Ce bijou est en or. Lemari ini dari kayu mahoni. Lemari ini dari kayu mahoni. Cette armoire est en acajou. Chers amis, le bracelet Simpai ou bracelet créole sont des bracelets tissés. Le mot Simpai signifie bague ou bracelet en rotin ou en métal acéré ou à tendre. Bracelet créole actuellement vendu comme souvenir typique de Tanjung Puting, Kalimantan Central. Chers Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Saya suka gelang ini. Bahannya dari apa?
Ini gelang simpai. Bahannya dari akar janggang. Janggang itu sejenis tanaman pakis.
Saya beli 5 ya.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'Apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Magazine Musical. Avec moi Audrey, et dans l'ambiance de nouvelle année 2025, je vais vous présenter une chanson de Makassar, intitulée Hati Raja. Sans ajouter, la chanson Hati Raja a été composée par Ho Eng Ji. Cette chanson contient l'action de grâce et l'abandon à Dieu. Les paroles disent que Dieu est un endroit pour demander et plaider. Seul Dieu sait et accorde ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Bonjour Joita, voici Emilia Suratman va chanter une chanson intitulée Hati Raja. J'espère que vos espoirs
pour 2025 se réaliseront. Et bonne écoute.
Diffusion étrangère de Radio République Indonésie présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Espagnol, Arabe, Mandarin, Japonais et Indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'est l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming voanews.id and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.
From Indonesia to the world.